Allô Europe 1 ?
Allô Europe 1 ?
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô ? Allô Europe 1 ?
Thomas Touroud.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver de nouveau pour le 10h midi d'Allô Europe 1. L'émission qui répond à toutes vos questions, santé, bien-être, conso, vie quotidienne, tous les sujets qui vous concernent. Un seul numéro, le 3921 pour nous appeler, pour poser toutes vos questions. Vous connaissez ce numéro de 10h à 11h. C'est la rubrique santé, bien-être d'Europe 1. Vous avez peut-être profité du long week-end de l'Ascension pour aller faire un tour à la campagne, en forêt ou encore à la plage. Les vacances d'été approchent également. Alors ce matin, on s'intéresse aux piqûres d'insectes, de serpents ou encore de méduses. Comment réagir en cas de piqûre ou de morsure? Quelle attitude adopter? Quels sont les bons réflexes pour soi, pour ses enfants? Toutes vos questions, vos témoignages au 3921. Jean-Marc du Standard est là, fidèle au poste, évidemment, pour vous répondre. Avec nous aujourd'hui, le docteur Marcel Ichoux. Salut Marcel.
Salut Thomas.
Comment ça va?
Eh ben ça va bien. Simplement, je voulais penser à des choses positives pour les vacances.
Oui.
Et là, vous me parlez de piqûres.
C'est vrai que ça peut arriver quand même. On est content d'aller à la plage, clac, méduse. Et tout de suite, c'est un peu moins rigolo. Qu'est-ce qu'il faut faire, Maman? On se posera la question d'ailleurs tout à l'heure. Isabelle Canin est là aussi. Salut Isa.
Bonjour Thomas. La question, c'est dans la même journée, est-ce qu'on peut se faire piquer par une méduse, un moustique, une tique, une pire journée. Une vipère.
Je pense que c'est possible. Ça peut, hein, en tout cas. Béatrice Cléraz est avec nous également. Bonjour Béatrice.
Bonjour Thomas.
Pharmacienne avec qui on parlera de tout cela. Et puis le docteur Pain, Gérald Kerzek. Également, salut Gérald.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Et tout de suite, c'est le répondeur Santé d'Allo Europe 1. Toutes vos questions à Gérald Kerzek au 3921.
Allô docteur.
Bonjour.
Bonjour Gérald.
Bonjour docteur.
Bonjour docteur, j'appelle de Ponto Combo, je suis Sylvie. En fait, j'appelle, c'est par rapport au pied de mon compagnon. Il me dit que tous les jours, toute la journée, voire les nuits, il a mal aux pieds, les pieds sont engourdis. Et donc du coup, c'est un grand questionnement à la maison. Merci.
Alors Sylvie, il y a plusieurs raisons à ces engourdissements du pied, parce que ça peut être soit vasculaire, c'est-à-dire les vaisseaux, et les vaisseaux, il y a quoi? Il y a les veines, et ça peut être l'insuffisance veineuse, par exemple, le fait d'avoir les jambes lourdes, bah c'est ça, c'est des picotements un peu dans les jambes, c'est parce que le sang ne remonte pas, mais ça peut être aussi artériel, avec par exemple le sang qui n'arrive pas et l'oxygène qui n'arrive pas jusqu'au bout des pieds. Et un des bons signes aussi, c'est quand on marche, on a un périmètre de marche qui est limité, c'est-à-dire qu'au bout de 200-300 mètres, eh bien il y a des douleurs, il y a ces engourdissements qui vont augmenter. Mais ça peut être aussi une douleur neurologique, ce qu'on appelle une neuropathie. Alors c'est des douleurs qui peuvent réveiller la nuit, qui sont des douleurs un peu inflammatoires à type de décharge électrique aussi. Et il y a certaines maladies comme le diabète qui peuvent les donner. Dans tous les cas, de toute façon, il faut qu'il consulte votre mari et il faut probablement qu'il consulte son médecin généraliste, qu'il enverra chez un médecin vasculaire ou un angiologue pour aller faire un Doppler, pour aller regarder comment ça circule, comment les artères et comment les veines circulent. Et ça va permettre un diagnostic.
Merci pour votre question. Encore une question au Doc d'Europe.
Oui, bonjour. J'ai vu un rhumatologue qui m'a dit que j'avais un rétrécissement du canal lombaire. Il m'a envoyé chez un neurochirurgien qui, lui, m'a prescrit des séances de kiné, de maldéo. Il m'a pas parlé d'opération et je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un autre spécialiste? Merci.
Alors c'est plutôt une bonne nouvelle si le neurochirurgien vous dit qu'il n'y a pas d'indication opératoire, parce que un chirurgien, bah c'est pas fait que pour opérer, c'est surtout poser la bonne indication. Est-ce que l'opération aura un bénéfice ou pas? Et là, il considère qu'il y a d'autres choses à faire avant l'intervention neurochirurgicale pour ce canal lombaire étroit. Canal lombaire étroit, c'est quoi? C'est la moelle épinière et les racines qui sont dans un canal qui est un peu rétréci. Donc ça vous donne sûrement des douleurs lombaires et puis éventuellement ce qu'on appelle un syndrome neurologique, donc un engourdissement des jambes, une claudication, le fait de boiter un peu. Donc dans un premier temps, c'est vraiment traitement médical, désinfiltration, ça peut vous aider aussi. Et comme le dit le neurochir, c'est kiné et balnéo, ça peut grandement aider et ça va pendant des années soulager vos symptômes. Et si vraiment il faut opérer, bah vous le reconsulterez. C'est-à-dire si ça ne suffit pas, à ce moment-là, la chirurgie, ça sera pour libérer le canal. Mais j'allais vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. S'il n'est pas le bistouri entre les dents, bah profitez de cet avis-là et essayez ses conseils et sa prescription.
Encore une question pour le doc d'Europe 1, Gérald Kerzek.
Bonjour docteur, je m'appelle Cécile, je vous appelle de 40 ans dans la Manche. Ça fait 10 ans que je porte des lentilles régulièrement et depuis ma grossesse, je les supporte plus du tout. Et aussi, j'ai régulièrement des migraines dues à mes yeux, mais tellement horribles que je suis obligée de me mettre dans le noir. Donc j'aurais voulu savoir si tout ça était normal. Voilà, je vous remercie docteur.
Normal, non, Cécile, parce que si vous avez mal, si vous avez mal à la tête, si ça vous provoque des migraines et si vous avez remarqué que quand vous mettez les lentilles, vous avez mal à la tête, c'est pas normal et c'est probablement que les lentilles ne sont pas ou plus adaptées. C'est-à-dire quand la correction, la puissance, la vue change et au bout de 10 ans, ça change forcément, notamment avec la presbytie qui peut intervenir, eh bien, vos lentilles, il faut changer la correction aussi. Donc, il faut que vous reconsultiez, allez voir un opticien, allez voir un ophtalmo pour peut-être changer la puissance de correction. Et puis, il y a la forme parfois de la lentille parce que c'est vrai que la cornée, vous savez, la cornée, c'est l'endroit où on met la lentille. Il faut bien qu'elle plaque. Et bien, parfois, cette forme de cornée se modifie avec les années. Et là aussi, bah, il faut changer la forme de la lentille qui n'est plus adaptée. Et si elle n'est plus adaptée, si elle n'est plus congruente parfaitement, eh bien, il y a un risque de maux de tête. La troisième raison des maux de tête, c'est les yeux secs. Parce qu'on sait que les lentilles, ça va assécher un peu. Donc, ça peut donner des douleurs. Donc, là aussi, parlez-en à votre opticien. Et puis, juste, les lentilles, ça donne pas forcément toujours des maux de tête. Et parfois, il y a même des lentilles colorées qui sont prescrites. Au contraire, quand on a des migraines, pour soulager ces migraines-là. Mais ça, c'est pas votre cas, mais c'était juste un petit aparté sur ces lentilles qui ont fait beaucoup de progrès technologiques.
Merci pour tous vos messages et toutes vos questions. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le répondeur santé d'Allo Europe 1, c'est au 39-21. Gérald Kierzek y répond tous les jours à 10h. Une courte pause et dans un instant, on parle des piqûres d'insectes, des piqûres de septants. De serpents, de méduses. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est piqué par une méduse? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est piqué par des petits insectes? Quels sont les bons remèdes? Quels sont les bons réflexes? Vous posez toutes vos questions à nos spécialistes. Ils y répondent dans un instant. À tout de suite au 39-21.
Vous voulez un petit café?
Je veux bien.
10h midi. Allô, Europe 1. 10h midi. Thomas Touroud.
Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
Ah oui, les petits insectes, c'est pénible, les petits insectes. L'été, c'est formidable, les vacances, c'est formidable, mais parfois, on se fait piquer, parfois, il y a des insectes, parfois, il y a même des serpents, parfois, il y a même des méduses, parfois, il y a même des pieuvres, des calamars, des monstres marins, Isabelle Quenin, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on s'intéresse aux piqûres, aux morsures, quelle attitude adopter, quels sont les bons réflexes pour soi ou ses enfants, si on va faire un tour à la campagne, en forêt ou à la plage. Évidemment, vous nous appelez, vous posez toutes vos questions au 39-21. On est avec le docteur Marcel Ichoux, avec la pharmacienne Béatrice Clairaz et Isabelle Quenin, bien entendu. Béatrice, en tant que pharmacienne, c'est souvent vous qu'on va voir le plus souvent et immédiatement dès qu'on a ce genre de problème, ce genre de petits soucis. Qu'est-ce que vous constatez, vous, le plus fréquemment?
Alors, effectivement, comme nous sommes des professionnels de premier recours, ouais, on vient nous voir. Mais l'idée, c'est peut-être, avant de traiter, de donner des conseils en prévention.
Très bien.
Pour que les gens, justement, se protègent dans les meilleures et puissent profiter de leurs vacances dans les, ouais, meilleures conditions. Alors, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est le plus souvent les piqûres de moustiques. Mmh. En fonction des périodes, les piqûres de tiques. Donc, oui, on va pouvoir parler de tout ça. Et puis, comme ici, on est en région parisienne, on voit moins souvent quand même des piqûres de méduses.
Oui, donc, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, mais ça n'interdit pas aux Parisiens, en l'occurrence, de partir aussi
voilà,
en vacances.
Mais je pense que pour le coup, mes confrères de la, ouais, de la côte seront plus à même, ouais, et, ouais, plus en première ligne pour régler ce genre de soucis. Mais ça n'empêchera pas qu'on donnera de bons conseils.
Marcel.
Oui, et puis les gens partent pas tous dans le sud.
Exactement.
Parfois, ils partent aussi très loin, dans des contrées exotiques,
ouais, ouais,
où là, les moustiques ou toutes ces petites bêtes sont encore plus virulentes, plus, ouais, dangereuses. Et il faut avoir aussi une prévention quand on part dans ces pays. Et je voudrais juste donner quand même une information. C'est, quand on part en vacances,
oui,
une des meilleures structures pour faire de la prévention, c'est le centre de vaccination d'Air France. Parce qu'ils connaissent toutes les destinations. Ils savent tous les vaccins à faire. Éventuellement, ils les font. Et on nous donne à ce moment-là tous les conseils de prévention, quitte à ce qu'après, Béatrice et moi, on prenne le relais.
Alors là, c'est pour le coup, c'est quand on fait des voyages et quand on part à l'étranger. Mais quand on va à la plage ou quand on part en vacances d'été, puisque les vacances, en l'occurrence, elles approchent, quand vous parlez de prévention, Béatrice, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Mais en fait, si vous voulez, par exemple, lorsqu'on va se promener en forêt et qu'on est dans une saisonnalité où il y a tendance à avoir des tiques,
ouais,
il y a un minimum de précautions à prendre. Par exemple, il faut se protéger. Mmh. C'est une des premières choses. Mettre plutôt des vêtements longs. Et puis surtout, lorsqu'on rentre de balade, malade, il faut pas oublier de se regarder pour être sûr qu'on n'ait pas été piqué par une tique, par exemple. Mmh. Donc voilà, tout ça, c'est des petites choses simples à faire. Mais vraiment, il faut penser à des choses comme ça. Si on va dans des zones où on sait qu'il y a des moustiques, il faut acheter des produits en prévention. Il faut se tartiner de manière régulière, en tenant compte, bien évidemment, des contre-indications de ces produits. Parce que là encore, ce ne sont pas des produits anodins. Il y a des contre-indications, notamment chez les petits-enfants, chez les bébés. Ouais. Et puis, certains seront adeptes de produits à base d'huile essentielle. Donc là encore, attention, il y a un certain nombre de contre-indications à tous ces produits.
Est-ce qu'il y a des allergies fréquentes aux piqûres d'abeilles, par exemple ?
Alors, globalement, il n'y a pas forcément de réaction allergique, mais il y a des gens qui ont des terrains allergiques. Ouais. Et dans ces conditions, il faut vraiment être encore plus prudent et s'équiper de certains produits, on pourra revenir dessus, lorsqu'on sait qu'il y a un terrain allergique.
Isabelle.
Il y a des clichés, on dit souvent, enfin j'ai entendu dire souvent que quand on est piqué par 7 guêpes en même temps, il y a un risque mortel.
Ouais.
C'est vrai ou c'est une légende ?
Ah non, en fait, si vous voulez, la multiplicité de la piqûre peut générer un effet qui est plus intense et donc une réaction de l'organisme qui est plus intense, et a fortiori si on est allergique. Donc effectivement, attention.
Ouais, Marcel Hichoux.
Oui, les réactions allergiques, elles sont de deux ordres. Une réaction locale, c'est une rougeur, la démangeaison, ça c'est pas très très grave.
Ouais.
Mais après, il y a des réactions générales, ce qu'on appelle le choc anaphylactique, où là vous avez la gorge qui serre, le dème de Quinck, effectivement. Mmh. Et là, on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc il faut savoir qu'il y a cette réaction allergique qui est une des dimensions, mais il y a l'autre aussi qui... Quel que soit le moustique, il peut vous transmettre une maladie. Donc, on a deux ordres de prévention à connaître quand on se fait piquer. Mmh. Quel moustique nous a piqué, si on arrive à le savoir, pour prévenir à long terme une maladie qui peut être transmise ? Et puis traiter la réaction allergique. Mais la réaction allergique, en général, c'est très rapide. Mmh. Ça ne met pas deux jours pour apparaître. C'est quasiment.
On constate quasi instantanément. Ouais, d'accord. 10h18 sur Europe 1. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Vous nous posez toutes vos questions. On s'intéresse aux piqûres d'insectes, de moustiques, aux morsures également. Toutes vos questions au 39-21. A tout de suite.
Allô ? Allô Europe 1 ?
Allô Europe 1 ?
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô ?
Allô Europe 1 ?
Thomas Touroud.
Insectes, serpents, méduses et autres petites bébêtes, comment réagir en cas de piqûre ? Que faire ? Comment se protéger ? Vous nous posez toutes vos questions au 39-21. On en parle avec Béatrice Cléras, pharmacienne, le docteur Marcel Hichoux et Isabelle Quenin. Évidemment, Valou nous écrit sur le compte Twitter d'Allo Europe 1, hashtag Allo E1, dans un épisode de Friends, la série Friends. Il est question de piqûres de méduses et d'urine pour soulager la douleur. Alors, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, ça, on a souvent entendu ça. Isabelle, vous avez la réponse ?
C'est un peu vrai.
Ah, c'est un peu
en
vrai.
En fait, ce qui est intéressant dans l'urine, c'est pas tant la composition de l'urine, mais c'est la chaleur. Et en fait, c'est parce que la piqûre de méduse, espèce de coup de fouet, cette brûlure que l'on a, elle est thermolabile. Mmh. Elle réagit à la chaleur. Donc, ce qu'il faudrait faire plus simplement pour éviter de faire pipi sur quelqu'un, c'est de la rincer avec de l'eau de mer et après d'appliquer dessus du sable chaud. Le sable de la plage qui est bien chauffé par le soleil, vous l'appliquez dessus et surtout vous laissez comme un emplâtre et puis après vous enlevez doucement. Et rien que ça, ça va soulager cette espèce de feu, ce coup de fouet que vous ressentez quand vous avez été piqué par une méduse.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire de manière, on va dire, plus... J'allais dire...
Plus médicale
Oui, médicale, oui.
Bah, quand on est à la plage, on n'a pas de trousse à pharmacie.
Ça, c'est
effectivement,
c'est
en urgence,
chaleur,
mais après, effectivement, la piqûre de méduse, en fait, se traite comme une brûlure.
D'accord.
Donc, en fonction de l'intensité, on va appliquer soit une crème, soit un pansement gras qu'on va changer régulièrement. Dans tous les cas, désinfecter. Et si vraiment c'est insupportable, on peut toujours administrer ce qu'on appelle des antihistaminiques par voie orale.
D'accord. Donc ça, c'est pour la piqûre de méduse. On revient sur les piqûres d'abeilles. On dit souvent qu'il faut enlever le dard, ce qui n'est pas toujours très facile à faire, d'ailleurs, Marcel.
Il faut le trouver, le dard, parce que c'est pas évident. Alors, évidemment, de toute façon, on en revient à des mesures de bon sens. C'est qu'il faut désinfecter et puis voir un peu comment ça évolue. Parce que très souvent, vous savez, on se fait piquer, on ne sait pas par quoi on s'est fait piquer, et puis les choses passent comme ça. Mais il peut y avoir des rougeurs, c'est toujours les mêmes symptômes, rougeurs, démangeaisons, et là, on applique le traitement en fonction du degré de gravité. Donc, désinfection, des pommades ou des onguents qui servent à enlever les démangeaisons et enlever le côté anti-inflammatoire. Et puis après, on monte un peu en graduation. Et d'ailleurs, moi, je fonctionne beaucoup avec les pharmaciens qui souvent sont en premier recours, et puis quand ça commence à prendre une allure ou des phénomènes un peu peu généraux. Ils nous passent un coup de fil et on prend le relais.
Et puis vous avez aussi un petit outil qui est intéressant, hein, qui s'appelle l'aspi-venin ou autre, qui permet quand même effectivement, quand on a une piqûre avec un dard, d'aspirer et de faire sortir le dard. Et ça marche très très bien. Donc ça, c'est vraiment un outil, enfin comme le tire-tic à avoir dans sa trousse de secours ou quand on part en balade.
Et ça, on le trouve en pharmacie, il y a des petits kits
Exactement,
C'est quoi le risque si le dard reste à l'intérieur ? Pour les tiques, on a bien compris que s'il y a une partie qui reste à l'intérieur, c'est très embêtant et ça continue de libérer des toxines. Mais si on laisse le dard, si on ne le trouve pas, on n'arrive pas à le sortir, est-ce que c'est un problème ?
Béatrice.
Une fois qu'il a donné son venin.
Juste localement le problème, c'est-à-dire que ça fait mal hein, au niveau de la piqûre, donc c'est effectivement douloureux. Et je peux vous dire qu'une piqûre de guêpe douloureuse, franchement, ça fait pas du bien.
Et donc, il y
a plus de risques d'infection. Voilà,
c'est ce que nous dit Mickaël, en tout cas sur le compte Twitter d'Europe 1, hashtag Allo1. Attention, une seule piqûre de guêpe peut être fatale chez un allergique. Oui. Alors, a fortiori, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. On en vient aux tiques que vous évoquiez à l'instant, ma chère Isabelle. Alors ça, c'est terrible, mais c'est revenu ces derniers temps un petit peu à la mode, entre guillemets. On en a beaucoup plus parlé, évidemment, avec la maladie de Lyme. Comment on fait pour se protéger tout simplement de cela ? Parce que ça devient même très, très angoissant, quoi. On a peur d'avoir un tique au retour de la campagne ou de la forêt.
Alors en fait, il n'y a pas de spray ou de crème en préventif, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut se mettre des vêtements longs. Oui. C'est essentiellement la protection. Éventuellement, quand une casquette ou quelque chose au niveau aussi du cou parce qu'ils aiment bien se mettre dans les régions un petit peu chaudes, mais c'est en prévention, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Mettre
le pantalon dans les chaussettes, voilà.
C'est pas très esthétique, mais ça protège.
Et une fois qu'on a le tic, alors en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Gérald nous parle souvent du tire-tique, mais quand on est en forêt, on n'a pas forcément un tire-tique avec soi.
Donc là, c'est une erreur. Il faut partir avec un tire-tique.
Vraiment
Franchement, parce que plus on le retire tôt, et plus on évite justement d'avoir des infections ou des choses comme ça. Donc le tire-tique, c'est vraiment le petit outil indispensable à avoir sur soi. Il ne faut surtout pas essayer de retirer le tique comme ça. Avant, on parlait de l'éther, d'endormir le tique et de le tirer avec une pince à épiler. Le problème, c'est ce qui est le rostre. C'est en fait comme une petite seringue qui pique et en fait il régurgite en même temps qu'il pique et c'est comme ça qu'il injecte la bactérie. Et si on laisse le rostre dans la peau, c'est là qu'il y a des complications avec un risque d'infection. Donc vraiment l'outil indispensable, c'est le tire-tique.
C'est vraiment le plus efficace.
Ouais. Et puis effectivement, si on se rend compte en rentrant de balade qu'on s'est fait piquer par un tique, qu'on n'a pas ce qu'il faut à la maison, il faut aller dans une pharmacie parce que c'est le genre de choses aussi qu'on fait régulièrement.
Marcel.
Alors pourquoi toutes ces préventions ? Parce que le tique peut transmettre une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme et qui évolue en plusieurs phases. Alors on ne va pas affoler les gens, c'est quand même assez rare d'arriver aux phases terminales plusieurs années après où vous avez des symptômes vraiment très importants, très durs, des symptômes neurologiques. C'est quand même pas le cas le plus fréquent. Mais on doit se prévenir, et notamment dans la deuxième phase, c'est-à-dire dans une première phase, vous avez une piqûre, et puis quelques temps après peuvent apparaître des signes un peu comme, c'est toujours les mêmes signes, des signes généraux, un peu de fièvre, des douleurs musculaires, comme quand vous avez une grippe. Et là, si on arrive à reconstituer l'historique de la piqûre, on doit penser à la maladie de Lyme et traiter aux antibiotiques.
Donc les antibiotiques, c'est pas immédiat. En l'occurrence.
Alors, les antibiotiques, c'est pas immédiat, c'est pas automatique. En fait, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de signe local, c'est-à-dire une rougeur particulière, certains médecins ne mettent pas aux antibiotiques, d'autres vont le faire systématiquement. Donc ça dépend vraiment. Mais par contre, il faut vraiment être attentif à la piqûre au niveau local. Et c'est d'autant plus pernicieux, cette petite bête, que la piqûre est indolore. En fait, on pense que en piquant, le tique injecte une substance anesthésique, ce qui fait que la piqûre est indolore.
On ne sent même pas.
Exactement, c'est exactement ça.
10h29 sur Europe 1, on marque une courte pause. Vous nous appelez au 3921 pour poser vos questions au sujet des insectes, des serpents, des méduses. Comment réagir en cas de piqûre ou de morsure ? A tout de suite.
Allô, Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud.
10h32, c'est l'heure des 3 infos santé d'Isabelle Quenin.
Allô, Europe 1. Les trois infos santé.
Première info, Isabelle, une otite mal soignée a des conséquences dramatiques.
On en parlait la semaine dernière, oui. Thomas, des otites à répétition. Eh bien, les otites ont enflammé les réseaux sociaux italiens ce week-end avec l'histoire dramatique d'un petit garçon de 7 ans qui est mort à la suite d'une otite traitée uniquement à l'homéopathie. Alors, ses parents ont expliqué que l'enfant était soigné par homéopathie depuis toujours et que les précédentes otites avaient parfaitement bien réagi au traitement. Mais cette fois-ci, la fièvre n'a pas baissé et l'enfant s'est affaibli tout doucement. Ses parents l'ont emmené aux urgences, mais il avait déjà perdu connaissance. Le débat depuis fait rage, les pros de l'homéopathie contre ceux qui dénoncent l'homéopathe. La folie de l'homéopathie, on ne sait pas encore si ce drame aura des suites judiciaires.
Docteur Ichou.
Oui, il y a beaucoup d'idées reçues en matière d'homéopathie et il y a plein de gens maintenant qui viennent en disant « Oh mais moi je veux pas de traitement, je me soigne à l'homéopathie ». Et encore une fois, c'est un regard qui est complètement faux. On peut utiliser l'homéopathie dans certains troubles, mais on doit d'abord faire un diagnostic. Et si les antibiotiques doivent être utilisés, c'est criminel de ne pas les utiliser, de dire bah moi, de toute façon, l'homéopathie, ça marche. C'est pareil pour la grippe, on a exactement les mêmes phénomènes et il faut utiliser les vaccins.
Mmh. Isabelle, au rugby, le AK des All Blacks, c'est médical.
Et le AK, c'est quoi? C'est ça.
Ça fait peur, hein. Rien qu'en écoutant, ça fait peur. C'est terrifiant.
Une équipe de garçons tout en noir et super baraqués qui menacent leurs adversaires droit dans les yeux des pires avanies. Vous savez qu'il y a plusieurs types de haka. Il y a le haka très lourd et il y a le haka encore plus lourd. Mais l'info n'est pas là. Et c'est le Parisien qui explique ce matin que le haka ne sert pas qu'à déstabiliser son adversaire. C'est surtout un moyen ultra efficace de se concentrer, d'exprimer, d'expurger sa violence et d'entraîner sa mémoire. C'est ce qui a poussé le ministère de la Santé néo-zélandais à inscrire le haka au programme des soins en service psychiatrique et dans le traitement de certaines maladies comme celle d'Alzheimer. Les mouvements répétitifs du haka, son rythme, stimulent l'attention et la mémoire. Ah oui. C'est un moyen en plus très efficace de faire de la gym. Ça ressemble à du tai chi, mais en accéléré.
Ça permet surtout de gagner des matchs, visiblement. Et puis on manque d'anti-venin contre les morsures de vipères.
L'info nous vient de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'y a plus beaucoup d'antivenin pour toute la région. Les lots qui restent risquent de ne pas suffire. Le risque est de devoir gérer avec retard le traitement des personnes qui auront été mordues. Alors l'agence régionale de santé a assuré que la solidarité entre les régions permettra de pallier la pénurie de produits. Le procédé est simple. Il est couramment pratiqué dans les hôpitaux. On achemine le patient vers l'antivenin ou l'antivenin vers le patient. L'agence de santé doit rappeler qu'en cas de morsure de vipère, il est recommandé de laisser la victime se reposer et de ne pas utiliser de dispositif type antivenin inefficace dans ces cas-là. Il faut contacter les secours le plus vite possible. L'antivenin est d'autant plus efficace qu'il est administré tôt. La meilleure des solutions reste la prévention et c'est d'ailleurs ce dont on parle aujourd'hui.
Eh ben justement, on va parler des morsures de vipères. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mordu par un serpent, Matrice?
Ah, c'est une colle là. Non. Quand on est... Non, mais c'est exactement ce que vient de dire Isabelle. Ouais. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est d'appeler les secours. Effectivement, d'immobiliser la victime pour éviter que le venin se diffuse, en fait. Et puis, malheureusement, je crois qu'il n'y a que ça à faire et il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de dispositif anti-venin qui fonctionne. Je ne sais pas ce que Marcel veut.
Bah, très souvent, si vous voulez, il n'y a pas d'étiquette sur les bestioles qui viennent nous mordre, nous piquer, etc. Donc parfois, c'est relativement simple quand on a l'habitude. On parlait des tiques tout à l'heure, mais pour les serpents, etc., honnêtement, on n'a pas les connaissances, à part les gens qui vivent en brousse. Et là, il y a un réflexe, c'est d'appeler les secours. Et un truc simple, c'est le 15, parce que c'est vraiment bien organisé. Mmh. Et s'il y a besoin d'une intervention rapide, ça se fait dans les minutes qui suivent.
Et l'aspivenin qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que c'est...
Surtout pas. Vraiment, non. C'est uniquement pour les piqûres de guêpes, les piqûres d'abeilles, des choses comme ça, mais surtout pas dans ce genre de contexte.
Donc le 15, et c'est ça le meilleur réflexe pour le coup.
Vous pouvez pas faire grand-chose.
Ouais. Et tous les trucs qu'on voit dans les films où ils aspirent le venin, ils entaillent, ils aspirent et tout. Je suis pas la seule. Donc effectivement, faire des garrots, il y a des tas de choses comme ça qu'on voit. Est-ce que ça a une réalité ou pas?
Les secours.
Oui, et puis si quelqu'un a des notions de secourisme, à la limite, pourquoi pas faire un garrot, des choses comme ça. Mais attendez, c'est pas le commun des mortels et je pense qu'il faut rester raisonnable. Appeler les secours, immobiliser la victime et voilà.
Non, mais j'irai même plus loin, même quand on a des notions de secours. Oui. On peut faire un secours sur un symptôme, une détresse respiratoire, un problème cardiaque, etc. Mais là, on ne sait même pas ce à quoi on a affaire. Il faut vraiment appeler des services spécialisés.
Maudin Donneau nous écrit sur le compte Twitter d'Allo Europe 1, hashtag Allo E1. La nuit, je suis beaucoup plus piqué par les moustiques que mon conjoint. Qu'est-ce qui les attire? Alimentation, parfum, chaleur corporelle? Eh bien, vous aurez la réponse tout à l'heure dans le quiz d'Isabelle Quenin. On va prendre Jocelyne qui nous appelle de Forbach. Bonjour Jocelyne.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je m'interrogeais, j'ai pris votre émission en cours et j'entendais votre intervenante parler de la façon de se prémunir contre des risques dus aux tiques, aux piqûres de tiques. Et je m'interrogeais sur le fait qu'elle n'ait pas évoqué le vaccin qui existe. Il semblerait qu'il existe un vaccin pour enrayer justement ou pour ralentir les risques dus à ces piqûres. Et je sais qu'en Allemagne, c'est quelque chose qui est très fréquemment proposé aux patients, alors qu'en France, on n'en parle quasiment pas du tout.
Alors, Béatrice Clairaz, est-ce qu'on peut répondre à Jocelyne ?
Alors, effectivement, à ma connaissance, je ne connaissais pas ce vaccin. Et de toutes les façons, comme vous le dites, c'est pour enrayer, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en amont, en prévention de la piqûre de tique, donc éviter de se faire piquer. Mais j'imagine que c'est une fois qu'on a été piqué. Enfin, Maurice, je sais pas, Marcel, je sais pas si vous le connaissiez, ce vaccin. Et est-ce qu'on l'injecte une fois qu'on a été piqué ou on va pas se faire vacciner en allant se promener systématiquement en forêt. J'imagine que c'est une fois qu'on a été piqué. Donc,
en pratique, on vaccine pas en France contre les tiques. Et puis, il y a un vrai problème par rapport à vaccination, c'est qu'il y a tellement de vaccins qu'à un moment donné, c'est ingérable. Et puis, c'est évidemment en prévention. Oui. Donc, il faudrait vacciner quasiment tous les gens pour aller. Donc, en pratique, honnêtement, on le fait pas.
Merci Jocelyne pour votre question au 39-21. On prendra ensuite Marilyn, juste après une courte pause, qui va aller dans le Colorado et qui va faire une randonnée dans le désert. Est-ce qu'elle doit prévoir quelque chose avant de faire ce grand voyage? On répond à cette question juste après une courte pause. À tout de suite.
Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô Europe 1.
Thomas Touroud.
Insectes, serpents, méduses, comment réagir en cas de piqûre, en cas de morsure? Voilà des questions que l'on se pose ce matin. Vous nous appelez au 39-21. On vous répond avec le docteur Marcel Ichaud, avec la pharmacienne Béatrice Clairaz et avec Isabelle Quenin. Marilyn nous appelle au 39-21. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Alors vous partez dans le Colorado, Marilyn? C'est formidable ça, dites donc.
Ben voilà, oui, on part dans le Colorado en randonnée et j'ai vu sur internet qu'il y avait des serpents à sonnette et des araignées énormes.
Aïe, aïe, aïe.
Donc ça va me courir mes vacances.
Mais n'y allez pas. Déjà, n'y allez pas, Marilyn, restez chez vous, que diable. Allez faire un tour à Trouville, il n'y en a pas des serpents à sonnette à Trouville.
Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène et qu'est-ce qu'il faut que je fasse au cas où?
Bon, bah déjà, si vous allez faire une rando dans le désert, prenez un petit peu d'eau. Ça, je vous le conseille.
Oui.
Et puis alors, pour se protéger des serpents à sonnette, Béatrice?
Se protéger des serpents à sonnette, non mais franchement c'est pas sympa comme question.
Non, mais écoutez, c'est vrai que Marilyn, si elle a lu ça, elle a en droit de se poser la question.
Déjà il faut avoir tous ses vaccins à jour, donc là on rebondit sur ce que disait Marcel en début d'émission, c'est-à-dire valider avec le centre médical de d'Air France.
C'est obligatoire,
pour être sûr que tout est ok. Et
d'autant
puis toujours
plus, Isabelle, que il y a tous les vaccins qu'on fait habituellement, vous savez, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, ça c'est évident. Après, dans certaines zones, c'est la fièvre typhoïde. Pensez à l'hépatite A et l'hépatite B.
Donc ça, c'est le premier conseil qu'on donne à
Aline. C'est la prévention
que
vous faites avant même de partir.
Exactement. D'accord. Se munir d'antiseptiques, de toute façon, dans tous les cas, des désinfectants.
Ouais.
Alors, soit en petite lingette, soit en petit spray. Il y a plein de formes qui existent, mais ça, c'est, on va dire, le produit indispensable.
Bien sûr. Et puis partir probablement quand on part seul comme ça, avec une trousse, ce qu'on appelle la trousse du voyageur, où il faut aller même jusqu'aux antibiotiques, aux anti-allergiques, mais puissants, avec même de l'adrénaline ou de la cortisone. Là, on part dans des conditions quand même un peu spéciales.
Elle ne va pas partir toute seule.
Vous ne partez pas toute seule, Marilyn?
On part tous les quatre seuls.
Il faut une trousse à pharmacie, une trousse de secours.
Il faut une trousse à pharmacie et notamment aussi, on parlait de l'eau, je crois qu'il existe des pilules pour désinfecter l'eau. C'est fondamental parce que l'eau, c'est évidemment dans le désert indispensable. Vous aviez raison, Thomas.
Et contre les araignées?
Et les araignées,
Alors, contre les araignées, il faut vraiment se protéger parce que c'est la seule solution pour ne pas être piqué.
Et au ça, moment, c'est les vêtements longs.
Les vêtements longs tout à l'heure, et surtout penser au moment où vous allez vous coucher parce qu'ils ne se reposent pas la nuit, toutes ces bestioles. Oui. Donc là, il faut vraiment examiner le sol et faire bien attention parce qu'il y a des serpents aussi. Oui. Les serpents sont particulièrement redoutables dans le désert. Alors, je ne connais pas le désert du Colorado. Mais ça doit être comme dans beaucoup de déserts où là, il faut vraiment faire très attention et vérifier en permanence avec une lampe qu'il n'y ait pas de serpent, mettre quasiment un guet.
Et quand on se fait piquer par une araignée, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, bonne question. Qu'est-ce qu'on fait ? On se lave la piqûre, on désinfecte. Ouais. Et puis, si on est dans le désert et qu'on a dans sa trousse à sa pharmacie une pommade antiseptique, on applique la pommade antiseptique. Si ça démange, une pommade anti-allergique ou un comprimé anti-allergique. Si on n'est pas dans le désert, on va consulter. Si on s'aperçoit que la piqûre s'infecte, que ça devient rouge, que c'est chaud, que ça grossit, voilà, c'est le minimum à faire.
C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller voir son médecin avant pour avoir tous les conseils, y compris pour utiliser des médicaments plus importants comme les antibiotiques ou la cortisone. Parce que quand vous êtes seul, ben là, c'est des mesures d'urgence. Et puis, vous n'avez pas besoin de la prescription d'un médecin pour faire ce type de traitement.
Isabelle.
On secoue ses chaussures avant de les mettre. On les retourne pour savoir s'il n'y a pas des habitants.
Pas
et on ne s'éloigne pas dans la nuit pour aller faire pipi.
Ah non, certainement pas. Bon, ben voilà, Marilyn. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter des bonnes vacances. Je ne suis pas bien sûr, quand même.
Je pense qu'on l'a démotivé.
Vous voulez pas aller dans la Creuse? C'est sympa la Creuse aussi, hein. Il y a moins de serpents à la sonnette. Bon, on vous embrasse, merci beaucoup Marilyn, et puis bon voyage. Je pense que ça sera en toute façon un voyage merveilleux. Le Colorado, ça semble absolument magique. Merci de votre appel au 39-21. Et c'est l'heure du quiz. Santé d'Isabelle Koen.
Certaines peaux attirent les moustiques plus que d'autres. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors ça, c'est vrai.
Eh ben, c'est vrai. En fait, les moustiques, ils sont attirés par deux choses. Le dégagement de CO2, de gaz carbonique. Mmh. Quand on dort, par exemple, le soir, on a du CO2 qui se dégage. Et les odeurs. Et on n'est pas tous égaux. Il y a même des expériences qui ont été faites sur des couples de jumeaux. Et on s'est rendu compte que souvent, dans le couple de jumeaux, eh bien, il y en avait un qui était piqué et pas l'autre. Alors maintenant, savoir quel moustique aime quelle odeur, on ne sait pas. Mais souvent, dans un groupe ou dans un couple, le moustique se concentre sur un seul.
Ben, oui, moi je suis
et l'autre, il est tranquille.
Ben oui, moi, je suis du mauvais côté, en l'occurrence. C'est moi qu'on vient piquer.
Les moustiques piquent à la tombée de la nuit. C'est
alors,
vrai ou c'est faux?
Ben, c'est vrai.
Et ben, c'est faux.
Ah bon, oui, c'est bien ça. C'est bien
parce
ce que je disais.
Il y a 3000 espèces de moustiques et chacune des espèces a ses petites manies. Alors, c'est vrai qu'en France, généralement, c'est à la tombée de la nuit, comme ça, entre chiens et loups qui viennent nous piquer. Mais les moustiques tigres, par exemple, eux, ils sont beaucoup plus retors. Ils piquent toute la journée, du matin jusqu'au soir, sans relâche. Donc le tout, c'est de savoir à qui on a affaire. Et il y en a certains qui ne respectent pas la trêve
du moustique.
Ils piquent tout le temps. Les moustiques aiment le noir, c'est vrai ou c'est faux ?
Alors c'est faux, vrai.
C'est vrai. Et on nous dit que pour les moustiques, pour les rebuter, il faudrait s'habiller en clair. Il faudrait déjà penser à faire quelque chose, c'est asperger nos vêtements avec de l'anti-moustique. Ça, c'est pas mal et ça fonctionne bien. Il faudrait des vêtements amples et des vêtements longs. Et puis l'avantage du clair par rapport au noir, c'est que sur le clair, vous voyez le moustique et donc vous pouvez l'oxyre, alors que sur le noir, eh ben, vous ne le voyez pas. Et est-ce que vous vous êtes demandé, Thomas, s'il y avait de plus en plus de méduses ? Est-ce qu'il y a une prolifération de méduses ?
Alors, il y a une prolifération de méduses. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que l'espèce qui est censée manger et chasser la méduse, à savoir le thon rouge, comme c'est une espèce en voie de disparition, bah, il y a plein de méduses partout.
Eh ben, t'as tout juste.
Mais c'est ce que vous avez dit à la pause. En fait, j'ai juste répété ce que vous nous avez dit pendant la pub.
Il y a les tortues qui raffolent des méduses. Ouais. Et le problème des tortues, c'est qu'il y en a de moins en moins. Elles aussi sont en voie de disparition. Et le problème qu'ont les tortues en plus, c'est qu'elles prennent les sacs plastiques pour des méduses. Oh et donc, elles s'étouffent.
Ça, c'est pas drôle
c'est
du
affreux.
Tout. C'est affreux. Merci beaucoup, ma chère Isabelle. On marque une courte pause, hein, Kevin, mon réalisateur. On va faire ça, une petite pause. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 39-21 et on évoquera avec Béatrice tous les sprays, tous les traitements répulsifs contre les moustiques. Qu'est-ce qu'on fait avant d'aller se coucher ? Est-ce qu'on se pchipchite partout ? C'est un peu pénible, hein, ça, quand même. Mais je crois que c'est assez efficace, quand même. Bon, on verra
c'est
ça dans un instant. À tout de suite.
Allô, Europe 1. 10h midi. Thomas Touroud.
10h53, c'est le 10h midi d'Europe 1. Allô, Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. On est encore ensemble jusqu'à midi et on s'intéresse aux insectes, aux serpents, aux méduses, comment réagir en cas de piqûre, en cas de morsure avec le docteur Marcel Ichoux, la pharmacienne Béatrice Clairaz et Isabelle Quenin. Béatrice, les traitements répulsifs contre les moustiques, est-ce qu'ils sont efficaces ? Est-ce qu'ils fonctionnent ?
Ah oui, On a aujourd'hui la chance d'avoir des produits qui sont très efficaces, ouais. avec quelques précautions concernant notamment les petits, puisque certains produits sont contre-indiqués en dessous de 3 mois, en dessous de 2 ans. Donc, il faut vraiment bien lire la notice et écouter les conseils du pharmacien. Et puis, l'important aussi, c'est d'appliquer de manière régulière dans la journée ces produits. Une seule application ne suffit pas. Autre possibilité aussi quand on a des tout petits, c'est de pulvériser non pas sur la peau mais ou sur les vêtements D'accord. ou alors sur un linge à côté de la poussette du bébé ou ouais. des choses comme ça. Donc oui, ils sont efficaces et attention aux contre-indications et aux précautions d'emploi et à utiliser de manière régulière.
Isabelle.
Est-ce qu'il faut se méfier des tortillons qu'on met sur le sol, vous savez les trucs incandescents oui. là en spirale?
Les tortillons.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Non, c'est un mot rigolo, c'est tout, mais c'est un bon mot.
Oui, oui, oui. Alors,
moi, juste.
Ces tortillons en brûlant dégagent des substances qui sont quand même relativement toxiques.
Ah.
Toxiques au niveau respiratoire, mais pas que. Donc, si on doit les utiliser, c'est en tout cas dans un endroit qui ne soit pas clos, toujours à l'extérieur et quand même à distance des petits enfants qui, et notamment des bébés, qui ont tendance à être très proches en termes de taille de ces tortillons. Donc, attention quand même à l'utilisation de ces produits, tout comme l'utilisation des prises électriques dans les pièces. Ça dégage aussi des substances qui ne sont pas anodines en termes de toxicité.
Je peux poser encore une question ?
Bien sûr !
On utilise les huiles essentielles, mais est-ce qu'il y a un problème si on va au soleil ?
Alors, certaines huiles essentielles sont photosensibilisantes. Elles ne le sont pas toutes. Donc là encore, attention à la nature de l'huile essentielle utilisée.
Il faut prendre laquelle, par exemple ?
Alors, par exemple, on peut prendre de l'huile de citronnelle, même si l'efficacité est toute relative. Mais c'est ce qui est beaucoup utilisé dans les pays africains, par exemple, en prévention. Et puis, attention aux enfants, là encore, puisque certaines huiles essentielles sont contre-indiquées chez les enfants de moins de 7 ans. Attention également aux gens qui ont des problèmes respiratoires et, par exemple, aux patients asthmatiques. Il y a aussi une contre-indication à l'utilisation de ces huiles essentielles.
Marcel.
Oui, on pense souvent à tort que les huiles essentielles sont anodines. Pas du tout. Et notamment pour une catégorie de personnes que sont les femmes enceintes.
Exactement,
y compris aussi. Dans les inhalations. On ne doit pas faire d'inhalation aux huiles essentielles quand on est enceinte. Donc ce n'est pas un produit anodin quand même.
On finit sur par un mot sur les démangeaisons.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser quand ça gratte, gratte, gratte et qu'à chaque fois on nous répète qu'il ne faut surtout pas se gratter?
Alors en fait, il y a deux types de crèmes ou pommades qu'on peut utiliser. On a les pommades à base d'antihistaminique,
oui.
donc qui vont jouer sur la démangeaison. Et lorsque la piqûre génère un œdème localement, on peut utiliser des pommades à base de cortisone, qui sont aussi en vente libre avec une concentration de cortisone faible, mais qui sont un peu plus fortes que les pommades antihistaminiques. Et là aussi, attention aux contre-indications en fonction de l'âge de l'enfant, puisque certaines sont contre-indiquées en dessous d'un certain âge.
Un dernier conseil qui nous est donné par Florian sur le compte Twitter d'Allo Europe 1, hashtag AlloE1, faire attention où on laisse ses chaussures car les serpents rentrent dedans. Ça, c'était le conseil pour Marlène qui va partir dans le Colorado cet été, dans le désert, avec ses serpents à sonnettes et ses
elle
araignées.
Elle met des sandales, comme ça, elle les verra.
Exactement. Merci beaucoup docteur Ichou, merci beaucoup Béatrice Cléas, merci d'avoir été avec nous. On reste avec vous jusqu'à midi sur Europe 1. On va ouvrir notre chapitre vie quotidienne conso. On va se demander tiens, comment se muscler sans faire vraiment de sport, ou en tout cas pas une grosse activité sportive, mais en tout cas se préparer pour être beau cet été. Puis à 11h30 au chapitre conso, on parlera de la tomate qu'on trouve aujourd'hui partout et sous toutes les formes, la tomate qui est devenue un produit quasiment industriel, hein. De quelle manière est-ce dangereux aussi parfois pour la santé? Toutes vos questions, vos témoignages au 39 21 tout de suite.